Le Cop Inside, 19h-20h30. Retrouve toute l'actualité sportive des Pyrénées sur Radio Inside. 19h-20h30, résultats, analyses, interviews, invités. Tous les sports à tous les niveaux sont dans le Cop Inside. Présenté par Xavier Grosclaude avec Olivier Garcia, Marc Logini et Mathilde Fou.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Inside. Je m'appelle Xavier Grosclaude et je vous accompagne jusqu'à 20h30 dans l'émission Le Cop Inside, l'émission qui supporte tous les sports dans les Pyrénées, donc en Béarn et en Bigorre, avec l'équipe des sports au grand complet ce soir. Je vais présenter tout d'abord Mathilde Faux. Salut Mathilde.
Salut Xavier, bonsoir à tous.
Ça va Mathilde?
Ça va super, et toi Xavier?
En pleine forme aussi pour cette émission. Juste à ta gauche, on retrouve Marc Logini. Salut Marc, est-ce qu'il est en forme Marc ce soir?
Super, très bon, très très bien.
Ça n'a pas l'air, hein. Si,
oui. Si, si, non, ouais. Un petit à la gorge, mais
d'accord,
ça,
ok, ça tout va bien.
C'est quand même ta meilleure intervention depuis 2 ans.
Voilà, et Olivier Garcia, dont vous avez peut-être reconnu la voix. Salut Olivier.
Salut Xavier, salut à tous.
Toi par contre, t'as l'air en forme, hein.
Très en forme, olympique ouais. Même.
Bon, super. On est parti pour 1h30 dans le Cop Inside. Deux invités ce soir, on va les présenter tout de suite. Tout d'abord, Virginie Kolanowski, qui est une marathonienne, hein, on peut le dire, c'est ça. Et toujours directrice du magasin Cache-Pot.
C'est ça, c'est toujours la même chose.
Très bien.
Ça n'a pas changé depuis la dernière fois.
Donc on parlera un petit peu de course à pied et notamment du marathon de Chicago auquel tu as participé récemment, c'est ça?
Voilà, tout à fait.
Voilà, donc un peu de course à pied dans cette émission. On parlera aussi de trampoline avec le fondateur du trampoline park Positive Jump, c'est Laurent Poublan. Bonsoir Laurent.
Bonsoir à tous.
Et voilà. Merci d'être avec nous, donc fondateur de ce Positive Jump, tout récemment ouvert à Pau. Hein.
Tout récemment, cofondateur, on est plusieurs, mais on en parlera.
Voilà, on y reviendra bien sûr tout à l'heure. Donc Laurent Poublan, cofondateur du trampoline park Positive Jump. Les chroniques de nos animateurs, vous allez les retrouver bien sûr tout au long de cette émission. Des chroniques qui s'intitulent tout d'abord « Le kiff et la gifle » hein, d'Olivier Garcia. « Le kiff et la gifle », Olivier, très rapidement, en deux mots, en quoi ça consiste?
En deux mots, je vais parler d'événements ou de choses ou de qui se sont produites la semaine passée ou qui se produiront dans une semaine. Là, j'ai un peu innové.
Ouais, mais voilà, « Le kiff et la gifle », c'est quelque chose
ouais,
qui t'a plu,
que
quelque chose
que
qui t'a
pas.
Déplu.
Non, mais
voilà.
Le titre parle de lui-même.
Tout
non,
à fait.
D'accord, hein.
Le quiz du COP qu'on retrouvera en deuxième partie d'émission avec Marc Logini, le quiz du COP.
Ce soir, ce sera quelques petites questions qui auront lieu, enfin un lien pardon, avec l'actualité sportive. Donc voilà, je vous mettrai au défi d'essayer de répondre à mes questions.
Ensuite, on se faufile dans les coulisses, dans les vestiaires avec le COP Inside. Ce sont les échos du COP présentés par Mathilde. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans les échos du COP ce soir, Mathilde?
Alors ce soir, on va parler un peu de tous les sports, mais surtout des commentaires qui ont fait un peu débat. Il y a eu plein de débats sur les réseaux sociaux ce week-end face aux prestations des équipes du coin. Donc on va essayer d'en débattre. En direct ce soir dans l'émission.
Très bien. Je vous livrerai ensuite le chiffre du COP, le chiffre qui, d'après moi, en tout cas, est un élément marquant de ce week-end sportif dans les Pyrénées. Il y en a forcément plusieurs, mais ce soir, on va se focaliser sur l'un d'entre eux, on va en discuter. Donc ça, ce sera aux alentours de 20h15. Et on terminera l'émission avec COP et match. C'est Marc qui nous présente ça. On parie, c'est ça?
Vous pariez, c'est vous qui pariez. Allez, moi aussi peut-être. Ouais. Et je vous donnerai les résultats du pari du match de la semaine dernière. Vous avez
ouais. On n'a pas été très bon, hein, à part peut-être Olivier.
Ah,
je crois.
Olivier n'a pas été ça. Trop mal quand même. Okay. Et après, donc,
je
on
tiens à dire
rassurant.
Que c'est le premier truc que j'ai regardé ce week-end.
Je tiens à dire que je sais même pas le résultat. Donc j'ai gagné.
Bon,
peut-être, je savais ça. Verras, mais
tu mérites de perdre rien que pour ça.
Et donc il faudra parier sur un nouveau match d'une équipe locale.
Je parlerai en dernier pour pas qu'on copie.
N'hésitez pas tout au long de l'émission à poser des questions à nos invités, à nous envoyer vos résultats sportifs, hein, évidemment, du week-end ou de la semaine passée. Comment ça se passe, Mathilde?
Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook ou Instagram, le COP Inside. Ou vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 05 59 84 02 16.
Sur les réseaux sociaux, c'est également là que ça se passe pour remporter des places, ou en tout cas tenter votre chance pour remporter des places, pour aller voir et encourager l'Élan Béarnais. Qui joue son premier match à domicile dans la Basketball Champions League demain soir à 20h face au Rasta Vechta. Mathilde, tu nous en dis un petit peu plus?
Mais on vous invite pendant l'émission à envoyer une question à nos invités sur la publication qu'on a fait de l'émission ou en message privé sur Facebook ou Instagram et tenter votre chance. On fera un petit tirage au sort avant la fin de l'émission pour gagner 2 places pour aller voir l'Élan mardi, demain. Du coup.
Super, merci à vous tous. On va se retrouver dans quelques instants pour démarrer le COP Inside après une courte page de publicité. A tout de suite sur Radio Inside.
Le COP Inside, l'émission sportive de ta radio locale, tous les lundis. Nouvelle saison, nouveaux invités, nouvelles chroniques. Tous les sports à tous les niveaux sont dans le COP Inside. Présenté par Xavier Grosclaude avec Olivier Garcia, Marc Logini et Mathilde Faux. Le COP Inside, 19h-20h30, tous les lundis.
Il est 19h passé de 9 minutes, vous écoutez Radio Inside, c'est le COP Inside en direct jusqu'à 20h30. Le COP Inside, supporter de tous les sports dans les Pyrénées. Vous l'avez entendu, à chaque semaine dans le COP Inside, vous pouvez tenter votre chance pour remporter des places, pour aller voir et encourager les clubs des Pyrénées. Cette semaine, on vous propose 2 places pour aller voir l'Élan Béarnais qui joue demain soir en Basketball Champions League face au Rasta Vechta. Match à 20h au Palais des Sports, donc ce mardi. Pour participer, c'est très simple. Vous nous écrivez sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram, le Cop Inside. Vous pouvez commenter la dernière publication ou bien nous envoyer un petit message privé, soit pour poser des questions à nos invités, soit pour nous envoyer vos résultats sportifs du week-end. N'hésitez pas, donc tout au long de cette émission, et on fera un tirage au sort à la fin. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de trampoline. C'est l'objet d'ailleurs ce soir du Labo du Cop.
Un événement, un fait marquant. Le Labo du Cop décortique l'actualité sportive dans les Pyrénées.
Voilà, dans le Labo du Cop, c'est un événement, on va dire, c'est le cas un petit peu, ouais, avec cette ouverture du trampoline park à Pau, Positive Jump. Bon, on va le décortiquer, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec Laurent Poublan, qui est donc son cofondateur. Laurent, première question, très très simple, est-ce que tu peux te présenter à nos invités? Qui es-tu? Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie?
Alors bonjour à tous, donc Laurent Poublan, je suis originaire de Pau, palois. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais un peu de tout. Alors je suis plus quand même basé dans les activités d'activités pleine nature, puisqu'à la base là j'ai toujours une société, tout ce qui va toucher autour du canyoning, l'escalade, voilà. Et après je fais d'autres choses aussi pour tout ce qui est travaux acrobatiques, etc. Et là depuis peu on s'est mis aux activités indoor avec donc la création d'une tout nouveau trampoline park sur Pau.
Ça fait pas mal d'activités quand même tout ça.
Ça fait pas mal d'activités.
Ouais. Tu dors un peu? Ouais.
Les nuits sont courtes. Ouais. Ouais, les nuits sont courtes.
Tu disais un peu de canyoning, tu étais déjà venu dans cette émission il y a quelques années pour nous parler de canyoning, donc toujours passionné par ces sports d'extérieur.
Toujours passionné. Donc là, nous on œuvre pas mal sur la vallée d'Ossau depuis maintenant plusieurs années, dizaines d'années. Donc le canyon, oui, ça fait toujours partie des activités que je propose avec notre centre de canyoning.
Olivier, une question pour notre invité.
Justement, pour les jeunes qui veulent faire comme toi, c'est quoi les études pour faire du canyoning? Il y a un BTS canyoning, un truc comme ça?
Alors c'est pas un BTS ni un CAP, ce qu'on appelle des DGEP, c'est des diplômes d'État qui se font sur le CREPS de Vallon-Pont-d'Arc et de Montpellier. Donc il y a effectivement une formation qui est maintenant d'État, qui dure plus d'un an, avec plein de modules, donc du coup, qui tournent autour du canyon, la création d'entreprises, enfin ça va plus loin que faire un simple nœud, mais oui, effectivement, il y a un diplôme.
Laurent, le trampoline park Positive Jump, qu'est-ce que c'est que ça et où est-ce que ça se situe?
Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est ce qu'on appelle donc un trampoline park, un complexe, là on est dans les activités indoor. Alors ça se situe en face de Total, on est basé sur les anciennes usines Legrand, qui est le long de la rocade, donc côté Terrega, en face de l'entrée principale de Total. Donc ces anciennes usines ont été habilitées en zone commerciale, c'est tout nouveau. Hein. On est les premiers à être installés. A priori, il y a plusieurs cellules qui vont continuer à être créées autour de la restauration loisirs sur ce complexe-là. Donc ça, c'est pour la situation géographique. Et donc, qu'est-ce que c'est? Le trampoline park, en fait, c'est là on est donc sur un complexe. Donc, comme je disais, d'intérieur, de 1200 mètres carrés, 1300 même exactement, avec 900 mètres carrés donc d'air de jeu qui sont dédiés un peu autour du trampoline. Voilà.
C'est un complexe qui est ouvert depuis quelques jours seulement. Hein.
C'est ça, depuis vendredi dernier, le 11 octobre. Donc le 11 octobre. Donc c'est tout nouveau. Et c'est bien lancé. Juste avant, on voulait un peu ouvrir même fin septembre, mais bon, les aléas des travaux. Mais au moins, on voulait ouvrir pour les vacances de la Toussaint, c'est chose faite.
Bon, des salles de sport, des complexes de squash, de pelote, de paddle, de foot en salle, il en existe beaucoup dans le coin. Ça, c'est unique en son genre en Béarn.
C'est ça, c'est complètement innovant. C'est ce qui nous a aussi excité un peu sur ce projet. Puisqu'en indoor, effectivement, sur Pau, je crois qu'on a à peu près tout ce qu'on peut trouver en indoor. Mais ce type de structure, concrètement, alors en France, il y en a déjà beaucoup, ça se fait. Ici, les premières salles, fallait aller sur Saint-Jean-de-Luz, Toulouse, Bordeaux, Tarbes, mais effectivement sur l'agglomération paloise, concrètement, il manquait cette structure. On avait fait une étude de marché qui avait démontré qu'effectivement c'était quelque chose qui était attendu par les jeunes et les moins jeunes, quoi.
Et d'où t'es venue cette idée? Tu parlais aussi tout à l'heure introduction de tes associés. Vous êtes un petit peu remué les ménages là pour essayer de trouver.
Ouais, alors
vous avez vu ça ailleurs peut-être?
Alors j'ai vu ça ailleurs. Moi c'est parti à la base initialement, c'est parce qu'un ami à moi qui est d'ailleurs dans le milieu un peu de pleine nature, qui a monté ça sur Grenoble. Donc lui il est plus dédié autour des sports de glisse et du coup il a monté ce type de salle qui a fait fureur aussi. Donc voilà, tout ça a fait le chemin et aujourd'hui on en est arrivé là, ouais.
Une question, Olivier.
Oui, quand on dit trampoline park, au début, c'est qu'on peut se dire c'est juste un trampoline géant et tout le monde saute dessus et tout le monde est content. Justement, il y a plusieurs salles différentes dédiées à différentes activités. Est-ce que tu peux les présenter ?
C'est ça. Alors, on a pas mal d'infos. Hein. Le site web est en ligne depuis quelques temps avec tout bien décrit. Mais effectivement, c'est la salle est divisée en plusieurs zones. En fait, ce qu'on appelle les zones de main court, c'est plein de trampolines qui sont interconnectées comme des petits trampos d'un mètre par un mètre, comme un grand damier. Avec des transferts, des blocs, des trampolines inclinés, des trampolines murs. Donc là, c'est un peu une grande plateforme de damiers, de trampolines, et on se déplace là-dessus. On a ce qu'on appelle une piste, ça aussi, c'est assez rare aussi dans les salles de tumbling. C'est un grand trampoline long de 14 mètres, donc une bande complètement directe, sans arrêt, avec qui arrive sur un grand plan incliné. Donc ça c'est ce qu'on appelle le main court. Après on a une zone avec une grosse fosse avec plein de cubes de mousse où là on a différents trampolines qui sont inclinés à différentes hauteurs. Donc c'est fun, c'est sportif aussi puisque là on a aussi ce côté, on l'a voulu aussi cette salle un peu à la création, une salle pour un côté récréatif, hein, pour que tous les jeunes, les moins jeunes, les adultes puissent s'amuser, mais aussi une salle qui pourra répondre à un côté sportif. Et ces choses, on a réussi le défi puisqu'on a déjà des clubs de ski, des clubs de gym, voilà, plein de clubs qui ont besoin de structures comme ça, sécurisées, pour, on va dire, plus de l'aisance aérienne et de gymnastique, quoi.
Et tu viens de parler de sécuriser, du coup, quelles sont les sécurités qu'il y a ? Parce qu'on peut aussi penser qu'on va se heurter en l'air.
Ouais, etc. Alors c'est bien sûr, c'est pas sans risque non plus. Ouais. C'est encadré dans le sens où on a ce qu'on appelle des animateurs et des surveillants, un peu comme à la piscine. Hein. On a des jeunes surveillants qui sont sur site. Il y a des consignes de sécurité. Il y a un échauffement aussi qui est fait. On a choisi ça aussi.
Obligatoire.
Ouais. Alors c'est pas quelque chose qui est obligatoire, on va dire. Il n'y a pas encore de normes qui mettent ça en place, mais on a voulu, comme certains parcs le font, au départ de lancer chaque créneau par une vidéo de sensibilisation et également un échauffement. Voilà, et après donc les gens partent là-dessus avec des consignes, mais effectivement, alors toute la structure c'est une grande, on va dire, armature de fer avec des trampolines partout, mais tout est sécurisé, moussé, donc c'est quelque chose. Donc nous on a choisi aussi de faire ça par un fabricant, un pionnier de ce type de structure français. Donc c'est aux normes, il y a des normes d'exploitation, etc. Donc effectivement tout est sécurisé, mais après il faut, voilà, les gens, il faut aussi que quand le parc est plein, il faut que les gens respectent les consignes, et des fois on est souvent amené aussi à tirer un coup de sifflet pour stopper les élans, ouais, de quelques personnes.
Si vous venez de nous rejoindre, il est 19h17, vous écoutez Le Cop Inside en direct jusqu'à 20h30. Nous sommes avec Laurent Poublan qui est cofondateur du trampoline park Positive Jump. Mathilde, une question pour notre invité.
Oui, alors on a vu le trampoline, c'est devenu très très en vogue, il y a beaucoup de structures qui se créent, et pour ses bienfaits, on va dire, pour la santé, mais aussi un aspect un peu bien-être. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est vrai que ce type de complexe répond vraiment on le voit, hein, à tout type de demandes. Ça peut être, comme on dit, de récréatif mais aussi sportif. Puisque là, on commence, alors c'est quelque chose qu'on va faire aussi, à nous demander s'il va y avoir des clubs. Il y a aussi du fitness sur trampoline aussi qui existe. Donc on a plein d'idées qui vont maintenant au-delà du simple fait de rebondir ou créer un anniversaire pour un enfant de 8 ans. Mais on est vraiment là dans quelque chose de sportif, de bien-être, de fitness. Alors il y a un ratio qui dit, hein, 10 minutes de trampoline équivaut à une heure de course à pied. Je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas...
On en parlera tout à l'heure avec Virginie.
Voilà,
elle ira essayer 10 minutes de trampoline.
Il y a des adultes, alors ça n'a pas l'air des... Voilà, il y a des adultes et enfants, hein, qui sortent d'une heure, puisqu'on sait des créneaux qui durent une heure, 1h30 ou 2h. Mais déjà, une heure de trampoline, c'est toujours pareil en fonction de comment on l'anime. Mais ça peut arriver à être assez physique quand même, si on y va un peu avec soutenance, quoi.
On parlait juste avant de l'aspect sécurité, tu disais un échauffement. Est-ce qu'il y a aussi des protections, un équipement particulier, ou est-ce qu'on peut venir comme ça avec ses baskets et voilà, short, t-shirt
Non, il n'y a pas de... Alors, on demande à ce que les gens viennent avec une tenue de sport, short, jogging, etc. Après, nous, alors, chose obligatoire pour un premier passage, il est obligatoire d'avoir une chaussette technique qu'on vend une première fois, qu'après la personne garde pour les prochaines visites. Donc, c'est une chaussette qui est antidérapante, en fait, sous le pied. Il y a plein de petites gommes antidérapantes qui permettent de prendre des appuis voilà, fermes et précis sur l'étoile pour éviter des glissades. Voilà. Donc c'est le seul élément que nous, donc, on met à disposition, qui est obligatoire. Mais après, non, pas de casque, pas de protège-dents, des choses. comme ouais, ça.
Pas besoin de tout ça. Je reviens un petit peu sur la genèse de ce projet. C'est quelque chose qui a mûri pendant des mois, des années peut-être.
Des années, ouais, ouais, des années. Moi, j'avais déjà en tête depuis deux ans et demi à peu près. Et puis le fait est que donc on est trois associés sur ce projet. Et après d'autres rencontres, voilà, ont fait que ça a accéléré le projet. Et on sentait que c'était le moment de le faire parce que si c'était pas nous, c'était peut-être d'autres. Et voilà, donc on a pris tout ça en main et on a mis donc l'idée. Ça fait plusieurs années, mais la création, on a mis un peu moins d'un an, quoi, 8 mois à peu près, avec un bon mois et demi d'installation de la structure. Et, voilà, mais c'est ça, ouais.
Ça représente un gros investissement à la fois personnel et financier, j'imagine.
Oui, alors c'est effectivement personnel, oui, parce qu'on a passé beaucoup de temps à la réflexion, hein, parce qu'il n'y a pas un parc type. Hein, le constructeur vous dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez. Donc au départ, on était parti sur 800 mètres, on est arrivé à 1000 mètres, 1200 mètres. Aujourd'hui même, on se demande si on va être assez dimensionné. Donc on réfléchit peut-être même à une extension ou à un déplacement d'une autre salle, mais sur l'agglo. Mais en tout cas, ouais, il y a de la réflexion parce que il faut, même si en gros on a les zones, hein, on n'a pas fini de toutes les dire, mais on a plein de zones possibles. Mais effectivement, il faut pouvoir mettre ça. Le constructeur nous aide aussi à le faire, mais pour pouvoir répondre, comme souvent il nous le disait, c'est une bonne réflexion qu'on se disait régulièrement, il faut qu'un enfant de 6 ans, 8 ans qui vienne dans notre parc voudra encore venir à l'âge de 16 ans pour évoluer dans cette structure. Et c'est ce qu'on a, parce que dans les structures et les zones qu'on avait là, on a décrit, on a ce qu'on appelle une zone pro avec des trampolines professionnelles, des toiles blanches, avec différentes hauteurs de sauts. Donc là, on est vraiment dans des zone dédiée à des jumpers confirmés, où là on va plus se retrouver. On avait là les clubs de ski, de l'escar, des skaters, des gens qui font du parcours, du free run. Donc là on est encore dans cette population sportive et d'entraînement, quoi, finalement. Donc oui, de temps et financier aussi. C'est un billet, je dirais pas là, mais c'est un gros billet, ouais, effectivement.
Concrètement, comment ça se passe? Voilà, si je veux venir demain au trampoline park Positive Jump,
faudrait que tu te soignes avant ton pied.
Ouais, déjà, faut que je soigne mon pied. Ça, c'est une chose, mais ça n'a rien à voir. Si je veux venir, la semaine prochaine, quand ça ira mieux, j'espère. Comment ça se passe? Je réserve? Je peux participer à une seule activité pendant le temps où je réserve? Ou est-ce que je peux profiter un petit peu de toutes les disciplines qui sont proposées? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le fonctionnement?
Bien sûr. Alors, du coup, le site internet est fait pour amener le client à réserver. Donc tout est réservable par internet sur le site web. Maintenant on peut venir comme ça, une réservation sèche directement à l'accueil. Alors c'est souvent ce qu'on disait là, c'est des créneaux 1h, 1h30 ou 2h. Donc en fonction de nos horaires d'ouverture, tous les quarts d'heure en fait il y a une vague de départ qui démarre. Donc en règle générale, à part là les week-ends et début de vacances, quand même le 3h-17h30, on arrive à avoir des créneaux pleins pendant plus d'une heure, une heure et demie. Donc c'est, on le s'en doutait, mais c'est les affluences un peu fortes de la journée. Mais sinon, oui, tu peux venir directement. Mais après, on conseille quand même une réservation par internet, ce qui est plus, voilà, au moins t'es sûr d'avoir ta place, quoi.
Marc, une question.
Ouais. Donc là, tu parlais des vacances avec une affluence qui est plutôt pas mal. J'imagine pendant l'année scolaire, c'est plutôt le soir. Comment vous gérez les périodes mortes, on va dire, en fait, en milieu de journée ou dans la journée? Comment ça se passe?
Alors du coup, c'est pareil, c'est des réflexions qu'on s'était posées. Actuellement, hors vacances, on est fermé dans le lundi et le mardi, avec une ouverture mercredi 10h fin d'après-midi, 20h jeudi après-midi, vendredi après-midi jusqu'en début de soirée, et samedi dimanche. Donc le mercredi, c'est ce qu'il y a eu la semaine un peu test avant les vacances. Bon, c'était le côté un peu d'ouverture, donc c'est pas non plus un repère à 100%, mais mercredi on a retrouvé cette population de parents avec des enfants, voilà, ça c'est, on s'en doutait aussi. Le jeudi, ce qui a été le cas, on a eu beaucoup d'étudiants aussi, du coup, puisqu'on fait une offre pour les étudiants également. Donc on en a eu pas mal. Et le vendredi, pareil, beaucoup de jeunes, d'ados. Donc à mon avis, ils n'avaient pas cours, quoi qu'on a entendu que certains avaient séché pour venir. Mais ça, voilà. mais voilà. Après, du coup, on est en train de commencer à se caler, parce qu'on a justement, alors on s'en doutait, mais pas autant ces demandes de clubs, en fait, qui veulent en fait des créneaux, complètement des créneaux d'une heure, comme on pourrait réserver une salle de sport où sont trinqués pour aller jouer, voilà. Et là, on essaie de commencer à regarder ce sera sûrement des fins de soirée en fait, mais pour pas que ça nous gêne, on va dire, dans l'exploitation, on va dire classique. Donc peut-être que des créneaux pourront s'ouvrir pour des clubs le lundi soir, le mardi soir, même des ouvertures un peu spéciales pour eux. Donc voilà. Après, on joue plus sur le côté récréatif, côté jeudi étudiant avec des clubs, vendredi un peu idem, et puis le week-end ça repart sur plus le côté récréatif, enfants, ados et anniversaires, puisque c'est vrai que les anniversaires aussi, les demandes sont fortes sur les créneaux anniversaires pour le centre.
Merci Laurent Poublan, cofondateur du trampoline parc Positif Jump à Pau. On se retrouve dans quelques instants juste après une page de pub. A tout de suite sur Radio Inside.
Rejoignez le Cop Inside sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, le Cop Inside. Le Cop Inside.
19h28, vous écoutez Radio Inside, c'est l'émission Le Cop Inside en direct jusqu'à 20h30 avec nos deux invités ce soir. Je vous le rappelle, Laurent Poublan, cofondateur du trampoline parc Positif Jump à Pau, Virginie Kolanowski qui est directrice du magasin Cash Pau et qui est également marathonienne. Elle a participé au marathon de Chicago il y a une dizaine de jours à peu près, hein. On y reviendra tout à l'heure avec elle. On revient sur le trampoline justement avec Laurent, on en parlait un petit peu hors antenne, le public visé, il y a pas mal de jeunes, mais ça peut attirer aussi du monde à tout âge, hein, ce trampoline park. Presque est-ce qu'on retrouve des seniors peut-être ou plus compliqué d'aller.
Des seniors plus compliqués, mais quoique, hein, est-ce qu'il va falloir réserver des créneaux pour les seniors, je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, c'est vraiment tout âge. Ça va, là, les demandes fusent tous les jours, ça va de l'anniversaire du petit de 8 ans, et au dernier, là, on a reçu des mails d'enterrement d'une jeune fille, donc pour venir fêter ses enterrements dans le complexe. Donc il y a vraiment
des maisons de retraite.
Pourquoi pas faire du jumping pour les prothèses de hanches sur trampoline.
Mathilde avait une question, c'était par rapport à l'enterrement d'une jeune fille ou pas du tout?
Non,
non
pas
c'est
du
pas encore
tout, mais...
d'actualité.
Enfin, je sais pas, ou alors j'ai pas eu encore la demande, mais bon.
On est au courant. Pour...
Ah oui, apparemment. Non, par rapport aux sportifs, en fait, qu'est-ce qui vient de travailler des sportifs au trampoline park?
Ben là, ce qui nous demande le plus, pour l'instant, sur les créneaux ou les sportifs qui viennent, on n'est plus sur des sports autour du skate, du ski. Là, on a eu le club de ski de l'Escar qui est venu. C'est pour tout ce qui va être un peu figure, tricks et autres, déplacements aériens, quoi. Le free run, le parcours pour pouvoir faire des manœuvres, on va dire, comme on disait tout à l'heure, en sécurité, dans des bacs à mousse. La gym aussi, nous ont contactés. Voilà, ouais, y a vraiment tous ces types de clubs qui commencent à venir vers nous, ouais.
Alors, ça nous faisait sourire un petit peu hors antenne pendant la pub juste avant, mais c'est quand même important. On peut quand même boire un coup et grignoter quelque chose sur place après le.
C'est ça.
Ça, c'est important.
C'est le plus important.
Peut-être même.
Peut-être même, au final. Après une heure de trampoline, c'est vrai qu'on a chaud. Donc, il faut s'hydrater. Oui, on a prévu un petit espace de restauration avec une mezzanine. Donc, on a à peu près 300 mètres carrés en bas et sur la mezzanine de 100 mètres carrés de restauration détente. Avec un coin mezzanine un peu coucou, avec canapé, voilà, ce truc un peu sympa pour que les accompagnants puissent être, on va dire, à l'aise, parce qu'effectivement, il y a quand même dans la population beaucoup de parents ou de grands-parents qui amènent les enfants ou les petits-enfants. Donc l'idée, c'est qu'ils soient aussi à l'aise pour venir se regarder pendant une heure les petits ou les moins jeunes, quoi. Hein.
Olivier, tu avais une question?
Non,
je t'ai vu gigoter là juste avant.
Il a répondu juste après. D'accord. Je voulais demander si on était obligé de faire de la trampoline pour boire un coup, mais non, donc
non,
ça va.
Non,
très bien. C'est pour Marc.
Par contre, Marc avait une question, il me semble, et je crois qu'il a vraiment une.
Est-ce qu'on peut imaginer des compétitions dans cette structure?
Alors, il y a alors des compétitions. Il n'y a pas réellement de compétition encore. Il y a des, ils s'amusent dans les Alpes à faire un petit peu chaque salle un peu. On va parler un peu comme en ski, ces riders, enfin ces jumpers. Et des fois, ils s'amusent à se faire des compétitions entre eux, un peu entre salles. Ils se déplacent comme ça pour faire avec des juges sur un trampoline. Parce que alors, nous, dans la zone pro, on a un grand trampoline de 5x5, donc 25 mètres carrés de toile. Et effectivement, c'est vraiment adapté pour faire ce qu'ils appellent un peu de des battles, quoi. C'est-à-dire il y a une personne, un jumper, sur le trampoline et pendant un certain temps, il envoie un maximum de figures dessus. Donc il n'y a pas réellement de compétition officielle, mais entre eux, ils font on va dire, des compétitions entre eux. Et entre salles aussi, ça peut se faire, ouais.
Et pour rebondir sur ce qu'a dit Marco.
Pas sûrement.
Non, pas encore. Il y a une salle de dodgeball, je crois. Est-ce qu'on peut faire des compétitions justement? Parce que dodgeball, c'est un genre de ballon prisonnier.
Oui,
c'est ça.
Alors aux États-Unis, il y a réellement des tournois. Effectivement. Alors là, on a dans les zones qui restaient donc on a la zone pro, hein, quand on parlait des zones tout à l'heure. On a un parcours ninja aussi. Ça a quand même un lien assez souvent entre les salles de trampoline et le ninja, les parcours ninja. Donc on a un parcours, on a trois parcours ninja là sur zone. Et donc on a ce terrain de dodgeball qui est dédié un petit peu, donc c'est un grand terrain de tennis quoi, avec des trampolines de partout en long, et on peut s'y adapter donc effectivement pour faire du ballon prisonnier.
Trop bien.
Alors nous, on a mis un système aussi pour mettre des filets. Alors là, on a des clubs de badminton aussi, badminton volley. Donc il suffit juste qu'on installe un filet et puis on peut se faire des belles parties de volleyball sur trampoline ou de badminton.
Il y a du basket aussi, je crois. Et exactement. Du coup, il y a quel sport qu'on peut pas faire? Genre le curling ou la pétanque?
Ouais, le pétanque non plus, mais basket, effectivement. Ouais. Ça aussi, ça fait partie des zones qui sont très, très demandées, même par les jeunes. Hein. Le rêve de pouvoir dunker sur des panneaux de basket. Donc on a deux panneaux de hauteur différentes et du coup effectivement sur les jeunes là, ils envoient des dunks sur
ou Mathilde aussi qui ça va être son rêve.
Bien sûr.
Voilà.
On parlait des événements qui pouvaient être organisés au Positive Jump à Pau. Est-ce que pour les entreprises aussi ça peut être un lieu pour se retrouver pour du team building ou pour une soirée d'entreprise?
C'est ça. Alors les événements nous majeurs qu'on peut faire dans cette structure, on en a parlé tout à l'heure, c'est les anniversaires déjà. Et après, on a voulu aussi cet espace un peu cocoon et cette mezzanine de 100 mètres carrés, justement pour pouvoir accueillir du team building, de la réunion de travail. On commence là aussi à avoir des demandes de sociétés pour privatiser la mezzanine et puis après se faire une heure de jump sur site. Donc effectivement, on a l'enterrement des garçons. Alors tout l'espace, là aussi, on a voulu par rapport à adapter ça au mieux pour ces événements-là. Et climatiser, chauffer, c'est important aussi d'avoir un complexe, à cette gamme-là. Parce que 70 personnes en même temps qui brassent tous les quarts d'heure, l'été, ça peut faire du chaud. Donc tout est climatisé, chauffé, donc tout confort, effectivement, pour accueillir ces événements comme ça de travail.
Oui, une autre question, c'est la question qui fâche. Ça coûte combien? Quels sont les prix?
Alors les prix, une heure, alors l'heure, alors on a les forfaits étudiants, donc là c'est des forfaits adaptés aux étudiants à 8 euros, l'heure. Après l'heure, on est à 12 euros, 16 euros l'heure et demie et 20 euros les deux heures.
Ça va. Voilà.
Il y a des formules d'abonnement ou des cartes
pour... Oui, alors
on lui demande ça pour une carte senior en fait.
Ouais, carte senior.
Carte vermeille, ouais.
On a, ouais, effectivement, on a l'abonnement. Alors, on fait des abonnements un mois ou trois mois qui vont être mis en place. Pas encore, là, d'ici la semaine prochaine. On travaille sur les cartes, mais c'est prévu. Et l'abonnement, une carte aussi 10 entrées. Voilà, là, on n'est plus sur valable un an. C'est la personne qui veut venir de temps en temps. Il aura ses 10 entrées avec un prix dégressif dessus. Et l'abonnement, pareil, on est sur des prix aussi à 60 euros le mois. Donc là, effectivement, ça vaut le coup pour des personnes qui viennent là. On est presque plus sur la salle de sport. Quoi. On pourrait commencer à être sur ce même contexte. Quoi.
Alors, on l'a dit tout à l'heure, Laurent, le Trampoline Park Positive Jump à Pau est ouvert depuis une dizaine de jours maintenant. Oui. Quels sont les premiers retours des personnes qui sont venues là sur ces 10 premiers jours?
Bah, écoute, pour l'instant, on a des très bons retours. Que ça soit, alors, on a tout mis en place, hein, le site web, on a les réseaux sociaux qui sont grand ouverts. La page Google, enfin tout est mis en place. On a des 5 étoiles qui commencent à arriver de partout, donc on fait tout pour que ça, voilà, que les clients soient et que voilà soient bien dans le complexe, que les jumpers soient et un parc adapté en sécurité. Il y a beaucoup de monde, ça c'est une réalité. Encore aujourd'hui, on l'a vu, hein, premier jour de semaine des vacances, les créneaux 15-17 chargés. Donc il y avait à un moment donné, le parc était plein. Donc pendant plus de trois quarts d'heure, une heure, on n'a pas pu prendre de jambes. Donc c'est vrai que certaines personnes sont arrivées un peu déçues de ne pas pouvoir jumper pendant une heure. Voilà, donc ça c'est la réalité des choses. Hein, mais pour l'instant, écoute, de très très bons retours. Ouais.
Que ça dure pour le
que ça dure, que
Positive
ça dure.
Jump donc à Pau. Merci Laurent, peut-être quelque chose à ajouter? On a oublié quelque chose tout ou est-ce qu'on a fait le tour?
Je pense qu'on a tout dit, ouais. Merci à vous, merci de l'accueil et de pouvoir d'avoir discuté de ce complexe important pour l'agglo.
Avec grand plaisir et on retrouve bien sûr toutes les infos, tu l'as dit, sur le site web, les réseaux sociaux, on tape Positive Jump à Pau, on va trouver tout ce qu'il faut. Super. Merci beaucoup Laurent Poublan, cofondateur du Trampoline Park Positive Jump à Pau. On passe tout de suite à la chronique d'Olivier qui, voilà, je crois que c'est pour ça qu'il gigotait tout à l'heure.
Un coup de cœur. Wow. Un coup de gueule. Ooh. C'est le kiff et la gifle du Cop Inside.
C'est ça, Olivier, qui te faisait gigoter? Le kiff et la gifle que tu sentais arriver?
Il y a beaucoup de choses qui me font gigoter en ce moment. Hein,
ça ne me regarde pas forcément. Allez, c'est à toi de jouer.
Alors, je vais faire un petit quiz aussi, peut-être pour les invités, parce qu'ils m'ont un peu chambré en antenne, surtout une. Donc, je vais vous dire une liste et vous allez me dire à quoi ça correspond. Après, les chroniqueurs qui sont censés être meilleurs pourront répondre.
Censé, tu viens de le préciser.
Donc, une petite liste, il faut deviner, hein, vous pouvez vous concerter, etc. Donc, c'est, pour pas que tu copies. Alors, romantic love, c'est le premier mot. Calao des mers, ça va être très dur.
Qu'est-ce que c'est que...
Piaf de B. Neuville. Sikuki TSF. Et Ringwon Kokatu. Voilà, c'est une liste.
C'est des joueurs de l'équipe du Japon à la Coupe du Monde?
Pas du tout.
C'est le nom de ta playlist, je sais pas.
Non, non.
Ta playlist préférée?
Pas du tout. Non, non.
Des pseudos?
Non, c'est pas des pseudos.
Des noms d'équipes?
Non, pas des noms d'équipes.
Des noms de hibou?
Ah, c'est le truc qui se rapproche le plus.
Ah ouais?
Des oiseaux?
Non, c'est pas des oiseaux.
Des avions?
Non, c'est pas des avions. Ah ah, on sait pas. Alors, c'est des animaux.
Volants?
Non.
Non, pas du tout.
Des
chevaux?
Ce sont des chevaux. Ce sont des chevaux qui ont fait quoi, du coup, avec l'actualité paloise? Des chevaux qui ont gagné les étoiles de Pau les années précédentes. Donc 2017 pour Romantic Love, 2016 pour Callao des Mers, etc., etc. Pourquoi je parle de ça? Parce que le week-end prochain, il y aura les étoiles de Pau, donc du week-end, grand week-end, hein, du 24 octobre au 27 octobre. Donc pour rappel, qu'est-ce que c'est les étoiles de Pau? C'est un concours complet 5 étoiles, le seul concours complet 5 étoiles de France, qui rassemble donc tous les meilleurs cavaliers du monde entier. On peut parler par exemple de, il y a 2 ans, qui a gagné, c'est Asti Nicolas, qui a été aussi champion olympique. Donc c'est quand même du très très haut niveau. Et vous voulez tirer un coup de chapeau aussi à cette initiative qui date de 1990, je crois, de la ville de Pau, qui rassemble énormément de monde et tout le monde est toujours très content d'aller voir. C'est quelque chose d'impressionnant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, Xavier, si tu as déjà vu.
Oui, il y a quelques années. Peut-être que j'irai refaire un tour cette année d'ailleurs. Il faut rappeler quand même que Radio Inside est partenaire du concours 5 étoiles.
Je suis corporate aujourd'hui.
Voilà, tout à fait. C'est très bien, Olivier. Bravo à toi. Donc je rappelle, Radio Inside partenaire et vous fait gagner des places tout au long de la semaine à l'antenne et sur les réseaux sociaux. Donc pour le concours complet 5 étoiles qui se déroule à Pau ce week-end.
Voilà, c'est une
petite parenthèse.
Voilà. Non mais c'est quand même une compétition de haut niveau mondial. Donc ça vaut le coup d'y aller, qu'on aime les chevaux ou pas. C'est quand même.
Il y a pas que du concours complet.
Non, il y a du dressage. Il y a
Oui, ça c'est dans le concours complet, mais il y a de l'attelage aussi.
De l'attelage.
Voilà.
Tout à fait. C'est vraiment 4 jours dédiés au cheval et. Pour les amoureux du chevaux ou pas, c'est vraiment l'occasion d'y aller et c'est extraordinaire.
Alors, on en reparlera bien sûr la semaine prochaine avec Marc, notre spécialiste cheval de l'émission. Olivier, la gifle.
Donc ça, c'était le kiff qui était très sympa. La gifle est toujours moins sympa qu'un kiff, hein, c'est logique. Je vais parler d'une compétition sportive qui a eu lieu ce week-end à Morlas, qui s'appelle la boucle des cordeliers, que du coup Virginie connaît un peu. Alors pourquoi j'en parle en gifle? Non pas pour gifler évidemment l'organisation qui font ça depuis 20 ans déjà et c'est déjà très très bien. Mais pourquoi? Parce que des petits malins se sont amusés à, entre 5h30 du matin et 9h30 du matin, à changer les fléchages du parcours. Ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pris les bonnes
directions.
Direction, c'est ça, je cherchais le mot. Merci, c'est gentil. C'était un mot compliqué pourtant. Et du coup, j'ai pas envie de parler d'eux parce que je trouve pas très intelligent. Donc, pour contrer ces gens-là, je vais citer quand même ceux qui ont gagné et qui auront leur nom inscrit sur le journal et qui, par leur talent, continuera à avoir leur nom inscrit sur un journal ou continuera à gagner des trucs, au contraire de ces abrutis. Donc le 14 km, ça a été gagné par Xavier Lartigue. Tu connais Virginie Xavier Lartigue?
Oui, je connais Xavier Lartigue.
Est-ce qu'il est sympa?
Il est sympa, il court très très bien.
Oui, bah, parce
qu'il court très vite, mais je le vois jamais parce qu'il court trop vite en fait.
14 km en 53 minutes 33 secondes, donc c'est énorme.
C'est pas mal.
Le 24 km a été gagné par Virginie, est-ce que tu sais?
Il a été gagné par Johan Bregardis.
Oui, en 1h57.
Les Aigles de Pau, qui est très bon aussi.
En 1h57 minutes et 17 secondes. Et la marche. J'aimerais bien que tu le dises parce que j'ai mal écrit.
Là, j'ai un bug, je sais pas.
La marche 8 km.
Je peux te dire qui était première féminine sur le 24.
Oui,
c'était Justine Poli.
Oui, c'est étonnant. Et la marche de 8 km, c'est Frédéric Musselin, je suppose. Ça te dit quelque chose?
Non, je sais pas.
Donc, j'ai sans doute écorché son nom. Il s'appelle Frédéric en tout cas. Il a mis 50 minutes et 39 secondes. Donc voilà, je pense qu'il faut mieux mettre en lumière les.
Mais tu mets pas les femmes en lumière quand même.
Si, c'est Jocelyne Poli qui a gagné.
Ouais, c'est pas toi qui l'as mise en lumière.
Mais j'ai pas fini.
Ah bon, d'accord.
Il faut mieux mettre en lumière les sportifs qui font tout pour gagner, qui s'entraînent dur plutôt que ces gens-là qui font des actions débiles au détriment de gens qui ont vraiment des valeurs et qui sont plutôt des bonnes personnes, notamment Virginie.
Et les bénévoles surtout.
Et les bénévoles aussi qui ont organisé le comité d'organisation. Enfin,
surtout qu'en connaissant la personne qui a fait les parcours, c'est quelqu'un qui est de chez moi, puisque j'habite à côté de Morlas, voilà, il prend à cœur de ne pas mettre de rubalise dans les bois pour ne pas altérer la nature ni quoi que ce soit, donc il va mettre des petits fanions un peu partout, donc c'est vraiment pas sympa d'enlever les fanions, voilà. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt à le faire, ça sert à rien au final, donc c'est dommage.
Ouais, voilà, je comprends pas l'intérêt, mais bon voilà, c'est ma gifle, merci, c'est tout pour le moment.
Ouais, merci beaucoup Olivier, le kiff et la gifle que vous retrouvez chaque semaine dans le Cop Inside. On va marquer une courte pause, le temps de passer quelques écrans publicitaires, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du Cop Inside.
Écoute le Cop Inside et gagne tes places pour les événements sportifs de la région.
Il est 19h47 précisément, hein, j'allais dire 46, on passe déjà à 47, c'est super. Vous écoutez Radio Inside, c'est le Cop Inside en direct jusqu'à 20h30. Et dans le Cop Inside, chaque semaine, vous pouvez tenter votre chance pour remporter deux places pour aller voir et encourager les clubs des Pyrénées. Mathilde va nous expliquer comment faire pour gagner deux places pour aller voir l'Élan Béarnais qui joue demain soir. Face à quelle équipe déjà, est-ce que tu peux me le rappeler?
Oui, bien sûr, Rasta Vechta.
Pas mal, pas mal.
C'est ça?
Ouais, on le fera dire à Marc tout à l'heure aussi, je sais qu'il aime bien.
Il vous reste encore quelques minutes pour envoyer une petite question à Virginie qui a fait le marathon de Chicago la semaine dernière.
Encore au trampoline park, mais on lui posera pas quoi, c'est tout.
Oui, bien sûr. Merci, Olivier.
Laisse-la se concentrer, Olivier, s'il te plaît.
Donc, vous nous envoyez donc une petite question pour Virginie sur les réseaux sociaux, la page Facebook ou Instagram, le Cop Inside, par message privé ou en commentaire. Et on fera un tirage au sort avant la fin de l'émission.
Tout à fait. Merci, Mathilde. Allez, après avoir parlé de trampoline, on va parler de course à pied. Et a priori, il y a un petit peu de lien entre les deux, puisque Laurent nous disait que tout à l'heure, 10 minutes de trampoline, ça pouvait être équivalent à une heure de course à pied. On va demander son avis à Virginie Kolanowski. Rebonsoir, Virginie.
Rebonsoir. Moi, je pense que je vais mettre au trampoline, ouais. Apparemment, parce que juste une heure de trampoline, ça fait 6 heures de course à pied. Donc, je crois que c'est assez sympa. Mais effectivement, ça va être sympa, le trampoline. Ouais. Ça donne envie, en tout cas.
Alors, on va se concentrer maintenant sur la course à pied, ouais. Puisque tu es venu là pour nous parler de ça, même si on pourrait parler de trampoline, bien évidemment, jusqu'à 20h30. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore? Tu étais déjà venu d'ailleurs ici dans ces studios, je crois que c'était au mois de mars de cette année.
Je confirme.
Ouais.
C'est au mois de mars?
Mars ou février, ouais, c'est ça, c'est en mars.
Oui, effectivement, tu n'étais pas là. Donc
il n'était pas là, Olivier.
Voilà. Ouais. Je sais que c'était en mars.
Donc, oui, j'étais venu à l'époque pour le marathon de New York, que j'avais fait quelques mois auparavant, et puis voilà. Alors après, qu'est-ce que je fais dans la
vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà.
Je m'occupe d'un magasin d'occasion, donc Cachepot, qui se trouve dans la zone de Géant Casino. Donc on fait principalement de la vente de téléphonie, aussi bien neuf ou d'occasion. Et maintenant, on a un espace réparation aussi dans le magasin. Donc on répare tout type de matériel, aussi bien téléphone que ordinateur ou autre. Enfin, on a MacGyver au magasin, donc il sait tout faire. Donc voilà, ça c'est ce que je fais principalement dans ma vie de tous les jours. Et puis à côté de ça, je cours beaucoup. Donc voilà.
J'allais te demander quel sport est-ce que tu pratiques. La course à pied, bien sûr. Est-ce que tu pratiques d'autres activités? Le trampoline bientôt, a priori.
Ouais, ça va être compliqué à caser en plus. Hein, mais oui, après je fais un peu de natation. Mais le principal, c'est surtout la course à pied et de temps en temps un peu de vélo parce que ça permet de reposer un peu les articulations. Et malheureusement, je suis obligée dans les entraînements de faire du vélo. Parce que je suis pas fan des deux roues, quoi.
Tu as déjà participé à plusieurs marathons. Est-ce que à ce jour tu as un meilleur souvenir? Alors a priori peut-être pas celui de Chicago. On va y revenir tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a un meilleur souvenir ou une réussite particulière dans tes précédentes courses?
Ouais, je sais pas. Mes deux préférés, ça aura été New York. En fait, c'est un peu un cliché, mais je crois que le marathon de New York c'est le plus beau et le plus impressionnant. Et pour faire un peu moins loin, le marathon du Médoc. Donc c'est pas du tout le même genre de course, mais c'est tellement incroyable que franchement il faut le faire au moins une fois dans sa vie.
Tu nous avais parlé lors de ta première venue de ce qui t'avait amené au marathon, c'était un défi personnel aussi. Est-ce que tu peux nous en reparler, nous dire d'où tu viens pour arriver à ce marathon, parce que c'est quand même une belle histoire et une belle preuve du dépassement de soi et comme quoi un peu tout est possible quand on le veut.
Oui, mais en fait j'étais venue au marathon,
à la course à pied
il y a quelques années, en 2014, parce que j'avais perdu du poids et que un jour, voilà, la prof de sport m'a dit à la salle, tu devrais essayer de courir. Et de là, je me suis dit bon, que j'allais faire une première compétition. J'ai fait un semi-marathon au bout de quelques mois, et de là, j'ai jamais arrêté de courir, quoi.
Tu peux y arriver aussi, Olivier.
Oui, non, parce que j'avais posé une question en ce sens. Il faut combien de temps entre le début de la course à pied et le fait de faire et de finir un marathon?
En fait, ça dépend de la motivation qu'on a, surtout.
Donc, toi, t'as mis combien de temps, quoi, pour faire?
Moi, j'ai mis 2 ans, à peu près. Okay. Parce que j'ai fait énormément. La première année, j'étais droguée de course à pied. J'ai passé mon temps à faire des courses. Donc, je faisais course sur course. Je m'entraînais pas forcément correctement. Je faisais surtout beaucoup de courses. Et l'année suivante, j'ai commencé à me dire, allez, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus sympa. Le semi, c'est pas si dur. Et je suis passée au marathon.
Marc,
pourquoi des courses?
Parce que c'est le côté, je sais pas, l'adrénaline qu'on a quand on commence on se dépasse complètement, en fait, on oublie tout. Et moi, je l'ai encore vu, voilà, le week-end dernier, enfin, il y a deux semaines plutôt, sur le marathon de Chicago. Effectivement, on se dépasse totalement et on se rend compte qu'on est capable de faire des choses qu'on n'aurait jamais cru possible auparavant.
Que tu peux pas faire l'entraînement. tu as besoin d'avoir des gens autour de toi pour te dépasser.
Alors en fait, à l'entraînement, c'est, on dit toujours, on fait pas sa course à l'entraînement. Et effectivement, on peut courir autant qu'on voudra à l'entraînement, on fera jamais la course de la. C'est pas ça qui va nous, ça va nous aider à faire la course, mais on ne pourra pas faire la course le jour de l'entraînement. C'est pas possible. Parce que je sais pas, il y a cette montée d'adrénaline, le fait aussi de se dire, allez, il y a le concurrent qui est devant soi là-bas, je vais aller chercher, je vais aller chercher, je vais le dépasser, je vais le dépasser. Et quand on n'arrive pas loin de la ligne d'arrivée, où on accélère, on ne sait pas comment c'est possible parce qu'on n'en peut plus, mais on accélère encore. Donc ça, c'est cette montée d'adrénaline qu'on a dans pas mal de sports aussi. Hein. Mais moi, c'est ce que j'ai dans la course à pied.
Et un certain goût de la compétition aussi, forcément.
Un peu.
Ouais.
Un peu beaucoup. Mmh. Mais bon.
Tu as un coach, un club dans lequel tu t'entraînes?
Oui, j'ai un coach, je fais partie d'Esprit Sport. Donc, je suis coachée par Nicolas et Sylvain. Donc voilà. Donc, heureusement d'ailleurs, parce que toute seule, ce serait compliqué. Je l'ai fait pendant des années. Et l'avantage d'avoir un coach, c'est qu'il est un peu plus à même à répondre, voilà, si on est fatigué telle semaine, il va faire l'entraînement de telle façon. Donc c'est un peu plus facile maintenant. Celui qui a envie de s'entraîner tout seul, il peut aussi, hein, c'est pas un problème. C'est juste une histoire de motivation plus qu'autre chose.
Et Marc, tu t'entraînes combien de fois par semaine?
Alors là, entraînement marathon, c'est 5 fois par semaine. Donc, ce qui n'est pas énorme. Parce qu'en
longue
soi,
distance
ça va être plus en fonction plus de temps. Plus. Ça va être par exemple 1 heure à 1 heure et demie d'entraînement sur le cours de la semaine en fractionné. Ou par exemple, ou des entraînements un peu plus compliqués, style de faire 2 heures et demie de vélo. Alors là, comme je disais, j'ai horreur du vélo, mais par chez nous, ça monte pas mal, quoi. Donc 2 heures et demie de vélo, quand votre coach vous dit, tu fais une montée en danseuse, et puis tu charges à fond, et puis une montée assise, et tu fais que ça tout le long, et puis après, t'arrives chez toi, tu jettes ton vélo, quasiment, et tu cours partir, tu pars courir 1 heure derrière. Donc le voisin te regarde, il se dit, t'es complètement malade, et toi, t'as les jambes complètement éclatées. Donc voilà, c'est ce genre d'entraînement horrible qu'on fait, en l'occurrence.
Tu as participé il y a quelques jours donc au marathon de Chicago. C'était ta première participation à ce marathon ou tu l'avais déjà fait?
Alors Chicago, je l'avais jamais fait puisque le but que je me suis fixé, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, c'est de faire les 6 majors, donc les 6 plus gros marathons au monde en fait. Et donc j'ai déjà fait New York, donc là j'ai fait Chicago et puis les autres par la suite quoi.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé?
Alors ça a été assez compliqué. Hein. On peut avoir l'entraînement qu'on veut, même si l'entraînement s'est bien passé. J'ai fait les 18 premiers kilomètres dans un état normal, dans l'objectif que je m'étais fixé. Je m'étais fixé 3h40 en me disant que c'était largement atteignable, il n'y avait pas de souci. Sauf que à partir du 18e kilomètre, en m'alimentant, j'ai commencé à vomir tout simplement. Donc gros maux de ventre. Et là, autant vous dire que quand on a des spasmes, c'est très très compliqué de courir et se dire il en reste encore 24 à faire, quoi. Donc voilà, ça a été ponctué de beaucoup d'arrêts, des pleurs en courant, ce qui m'était jamais arrivé, et tout le long à se dire mais il faut finir quoi.
Et comment tu te remotives dans ce moment-là?
Alors en fait, j'avais eu la très bonne idée, je ne sais pas pourquoi, le matin même, de me dire je vais m'écrire une phrase sur la main pour m'encourager. C'est,
ah ouais.
C'est idiot un coureur des fois. Hein.
C'est original. Donc, du moins.
Ouais. Et je m'étais écrit la douleur est temporaire, l'abandon est définitif. Et effectivement, j'ai couru pendant 24 km avec la main en l'air, en la regardant en permanence, en me disant tu peux pas arrêter. Et ça marchait, mais c'était horrible.
Et c'était bien les urgences après ou pas?
Non, ça aurait pu arriver en tout cas.
Et du coup, quel temps tu as fait?
J'ai mis 4 heures.
4 heures.
Donc ce qui n'est pas catastrophique, mais ce qui
40 minutes de trampoline.
Ouais.
C'est ça.
40 minutes de trampoline, ça fait rêver. Hein. Ouais. Mais ouais, donc c'était pas mon objectif, mais en même temps. Même si le sport doit rester un plaisir, là c'est sûr que c'en était pas un pendant de nombreux kilomètres. J'étais au bout, c'est le principal. Et je me suis prouvé à moi-même encore une fois que j'étais possible, parce que mentalement ça en apprend beaucoup. Quand pendant 24 kilomètres, vous n'arrêtez pas de vous dire je vais abandonner, j'en ai marre. Pourquoi je fais ça? Quand on réussit à surpasser, je pense que ça aide pas mal pour d'autres choses dans la vie, à se dire bon, on peut relativiser puis. On peut passer au-dessus de certaines choses, je pense.
Mathilde, on a une question sur la page Facebook du Cop Inside, il me semble.
Deux.
Ah ben c'est parfait.
La première, c'est Raphaël qui la pose et qui demande, est-ce que tu trouves qu'il y a une ambiance différente sur le marathon de Chicago et par rapport à des marathons en France Genre Paris ou autre, ou le Médoc du coup. Vu que
alors le Médoc, il y a une ambiance incroyable, mais vraiment je vous conseille le Médoc, c'est incroyable. En plus on mange gratos et tout, c'est bien. Hein.
Ah j'ai peut-être ça y est,
ça trouvé la...
t'as trouvé l'argument.
Bord de l'Azo, 38e kilomètre, mais il faut faire les 38 hein, par contre. Hein.
C'est pas un
souci. C'est très sympa, et puis le vin.
On se surpasse.
Ouais, ça vaut le coup. Donc oui, non, pour répondre à la question... tout dépend du marathon, je dirais. Si tu fais le marathon de Pau, comme il y a quelques années, là, tu n'auras pas vraiment beaucoup d'ambiance. Malheureusement, c'est un petit marathon qu'il y a eu et qui n'existe plus. Où là, effectivement, il n'y a personne. Et par contre, sur d'autres marathons en France, tu peux aussi avoir un peu d'ambiance. Mais évidemment, il faut relativiser, remettre les choses à leur place. Chicago, c'est 48 000 personnes. Donc évidemment, il y a beaucoup de supporters. Quoique, j'ai fait New York l'année dernière. C'était incroyable. Je m'attendais à la même chose sur New York, enfin sur Chicago, et franchement, c'était totalement différent. Y a des endroits où il n'y avait personne. Pour avoir fait le marathon de Barcelone, Barcelone, il y a du monde partout. Et c'est, je crois que c'est 20 000 participants, quelque chose comme ça, quoi. Donc, je dirais que pour l'ambiance, allez, on n'est pas loin de l'Espagne, ça vaut le coup d'aller en Espagne parce qu'ils sont assez chauds, quoi. Donc, c'est sympa.
Deuxième question, Mathilde.
Deuxième question, est-ce que tu vas faire le marathon des JO de Paris ?
Non. Non, 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 c'est pas prévu. Là, pour l'instant, sincèrement, je me suis mis au trail cette année. Donc là, la prochaine grosse échéance, c'est l'éco-trail de Paris. Donc c'est pareil, c'est sur un gros format aussi, c'est un 48 km. Donc c'est semblable à un marathon, un peu plus long, de quelques kilomètres, et puis un peu plus de dénivelé aussi. Mais non, les prochaines échéances en marathon, ce sera ceux que je vise vraiment, donc Londres, Tokyo, Berlin et Boston, quoi. Donc... il faut faire des économies, c'est tout. Parce que ça coûte cher.
Le trail, j'allais justement y venir. Tu t'y es mise donc récemment, c'est ouais. Ça ? Et est-ce que tu as peut-être dans l'objectif, pourquoi pas, d'aller faire la Diagonale des Fous ? C'est quelque chose qui s'est passé ce week-end. On va en parler d'ailleurs à cette occasion-là avec les résultats de nos Béarnais. Maxime Casajous, notamment, qui a terminé à la 4e place. Un petit peu déçu parce que ça a été compliqué en termes de balisage. Notamment pour lui, il a perdu pas mal de temps sur cette course. Mais c'est... Est-ce que c'est quelque chose qui te fait rêver dans un futur...
Non, alors ça ne me fait pas rêver dans le sens où... en fait, Max, on a la même structure, on a le même entraîneur. On fait partie du même groupe. Mm-hmm. Donc, je sais ce qu'il a vécu pendant toute la course et franchement, ça ne me fait pas rêver. Lui, il est juste incroyable. Il a un mental... j'ai jamais vu quelqu'un comme ça, quoi. Il est capable de se surpasser, de faire ce qu'il a fait. Je trouve ça énorme et je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Et non, moi, je pense que, voilà, si... Du trail, j'en ai fait un peu. Je suis plutôt pas trop mal sur les plus courtes distances. J'ai fait le Scale Trail dans le coin où c'est 2 jours, 2x25 que j'ai fait et je trouve ça très bien. Aller sur du plus long, en fait, je pense que c'est pas que j'en suis pas capable mentalement, c'est qu'au bout d'un moment, je pense que c'est long, les paysages sont jolis, mais je pense que je suis pas faite pour ce type d'effort, en tout cas pas encore. Et très très loin de faire la Diagonale des Fous ou quelque chose de similaire.
Vous écoutez Le Cop Inside sur Radio Inside. Nous sommes en direct jusqu'à 20h30. Adra, dépanneur. Je vous le disais, on est ensemble jusqu'à 20h30 avec Virginie Kolanowski qui a participé récemment au marathon de Chicago. Marc, tu avais une question pour elle.
Oui, du coup, tu nous as dit que tu faisais un peu de vélo pour l'entraînement, la course à pied, de temps en temps la natation off, tu nous as dit. Donc du coup, le triathlon, c'est une idée ou pas du tout ?
Non, j'ai envie d'en faire cette année et puis en fait, le coach m'a demandé de m'orienter vers autre chose. De rester sur les objectifs principaux que je m'étais fixé pour pas trop m'éparpiller. Parce qu'effectivement, quand on a envie de découvrir, on a envie de faire plein d'autres choses. C'est ce que j'ai fait la première année de course aussi. Et donc là, non, j'écoute quand même ce qu'on me dit. Quand on me dit, bon, il vaut mieux pas, il vaut mieux t'entraîner plutôt que d'aller faire plein de courses. Donc, ouais, non. Mais je pense que je finirai par y venir un peu. Parce que ça m'intéresse.
Sans jeter le vélo à la fin.
Sans jeter le vélo, ouais. Mais ça va être compliqué.
On a parlé de ton entraînement, donc tu disais 5 fois par semaine. Est-ce que dans cet entraînement, il faut aussi, pour préparer un marathon, faire attention à son alimentation ? Je sais qu'on en avait parlé un peu la dernière fois et j'ai ce souvenir où tu nous avais dit « Oh, en fait, si j'ai envie de me faire péter un burger la veille de la course,
alors,
je le fais. »
Là, je ne l'ai pas fait parce qu'on m'a demandé de ne pas le faire. Donc, autant te dire que...
Peut-être que tu n'aurais pas eu les maux de ventre si jamais tu avais pris un burger.
Figure-toi, parce que toi, tu n'étais pas là quand j'ai fait New York. J'ai quand même fait pendant une semaine du fast-food, de n'importe quoi. Et au final, j'ai même pas été malade. Donc, c'est ça le secret, manger n'importe quoi. Ou pas. Non, non.
Quel beau message pour ce jeune.
C'est magnifique.
Allez-y. Non, non, après, j'ai quand même fait beaucoup plus attention à ce que je mangeais. Donc, oui, maintenant, sincèrement, j'ai fini le marathon. aux États-Unis, il y a quelque chose qui n'est pas trop connu en France, ça s'appelle le Riz. Et c'est du des confiseries à base de beurre de cacahuète. Donc autant vous dire que mon message serait mauvais dans le sens où je suis revenue avec une valise remplie de céréales et de choses au beurre de cacahuète. Donc c'est un truc de malade. Et ma valise a été contrôlée en plus à l'aéroport.
C'est diététique ça ?
C'est une façon de voir les choses. Hein. Ouais. Tout dépend de la diététique.
Est-ce que tu profites de ces voyages aussi aux quatre coins du monde pour faire un peu de tourisme ou tu y vas juste dans l'optique de faire ta course ?
Non, j'y vais pour visiter. Ouais. C'est-à-dire que le dimanche, j'ai fait la course, j'ai souffert parce que c'était compliqué. Alors pas physiquement, parce que les jambes, j'avais l'impression de ne pas avoir couru. J'avais mal nulle part, sauf au ventre. Donc j'ai fini la course, j'étais fatiguée et j'ai pas pu m'alimenter encore parce que j'étais trop malade. Mais je suis rentrée à l'hôtel, je me suis douchée. On a enfourché des vélos et puis, même si j'aime pas le vélo, pour faire le tour du lac Michigan. Enfin, le tour, comprenons-nous, un petit peu, hein, parce que c'est bien plus long.
C'est quand même assez grand, hein, ouais.
Voilà, donc on a fait du vélo pendant quelques heures et le soir, un peu de shopping pour faire plaisir à ma fille, évidemment. Mais voilà, je peux pas partir, je peux pas embarquer ma famille dans mes aventures en me disant, je le fais que pour moi et puis vous, tant pis, je récupère maintenant. Donc non, il en faut pour tout le monde. Puis il faut pas oublier qu'on a une famille derrière et que... Le sport, ça reste que du sport. Il y a autre chose aussi d'essentiel dans la vie, quoi. Donc bon.
Là, c'est un beau message, Olivier. C'est mieux que celui de
tout à l'heure. C'est mieux que le beurre de cacahuète, ouais, toi, ça c'est sûr.
C'est quoi tes prochains projets, tes prochaines courses là dans les semaines ou les mois qui viennent ?
Le prochain, c'est la prochaine grosse échéance, ça va être l'éco-trail de Paris. Peut-être en février, Gruissant, je sais pas.
On est sur quelle distance là pour les deux ?
Sur quoi ?
À Paris et pour Gruissant.
Paris, c'est le 48 km.
D'accord.
T'as pas écouté, hein.
Oui, tu n'écoutes pas, hein.
Désolé.
Pas bon élève.
L'éco-trail.
L'éco-trail, pardon. Tu peux expliquer un petit peu?
Alors, l'éco-trail de Paris, c'est vrai que ça peut sembler un peu étrange de dire, il y a un trail écologique à Paris.
Comment
ça
ramasses des déchets en courant?
Mais on pourrait, hein. Ouais, c'est une idée,
hein. Il y a du boulot.
C'est du temps, là, hein. Et, là, non, en fait, celui-ci, en tout cas, tu pars du château de Versailles et tu arrives au pied de la Tour Eiffel. Donc, il y a différents formats de cet éco-trail. Où en fait tu vas à chaque fois pas forcément arriver au pied de la Tour Eiffel, tu vas avoir un 20 km, t'as des choses un peu plus courtes, tu passes par du petit sentier, c'est vraiment ça a rien à voir avec nos montagnes en fait, hein, c'est plus du bois. Donc écoute, je m'attends à ne pas avoir des buildings partout, j'espère ne pas avoir trop d'immeubles, mais bon, c'est histoire de voir. Comme le marathon de Paris me branche pas du tout, je me dis que c'est une façon de faire une grosse distance sur Paris sans faire le marathon.
Et du coup, par rapport à ça, est-ce que t'as un peu peur peut-être du coup de l'air pollué qu'il y a à Paris, parce que t'arrives au pied de la Tour Eiffel, bon, c'est pas non plus optimum au niveau écologique, quoi.
Oui, non, mais bon, ça devrait aller.
Quand t'as fait New York et Chicago,
c'est la question que je posais aussi.
Je pense que c'est pas pire, parce que tu vois, autant à New York le parcours était différent, mais à Chicago, à plusieurs moments, tu passes à côté de la voie rapide, quoi. T'as les voitures qui sont collées à toi, donc c'est assez étrange et franchement c'est pas très agréable pour le coup, hein. Donc bon, je vends pas bien le marathon de Chicago, je suis désolée, mais
après t'as peut-être passé un bon moment aussi, voilà.
Non, la ville est très belle, c'est sympa, hein, mais voilà, j'ai vu mieux en parcours, franchement. J'ai fait le marathon du lac d'Annecy par exemple. Là, c'est assez sympa. Tu longes le lac.
Ah oui, il paraît que c'est très beau.
C'est en aller-retour sur une piste cyclable. Et franchement, c'est très, très sympa. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est vert, pour le coup.
On arrive à la fin de cette interview. Un dernier mot peut-être à rajouter, Virginie. Quand on voit que tu nous parlais tout à l'heure de quelqu'un de drogué, d'accro à la course, t'en parles toujours avec autant d'enthousiasme.
Oui, mais ce qui est très étonnant, c'est j'ai fini le marathon. Donc mon mari et ma fille m'ont rejoint. J'ai regardé mon mari, je lui dis plus jamais je fais un marathon, c'est fini. Le lendemain matin, je me réveillais, j'étais en train de m'inscrire pour la loterie du marathon de Berlin. Donc il m'a dit, mais t'es pas possible en fait, tu ne t'arrêteras jamais. Voilà, en gros, ça résume pas
mal. Ça résume très bien. Merci beaucoup Virginie Kolanowski. Allez, nous on va se retrouver dans quelques instants, juste après une page de pub pour la dernière ligne droite de cette émission. Le Cop Inside, c'est de retour dans quelques instants.
Rejoignez le Cop Inside sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, le Cop Inside, le Cop Inside.
20h09, vous écoutez le Cop Inside, hein, si vous ne l'aviez pas compris dans le jingle précédent, je vous le rappelle, le Cop Inside en direct jusqu'à 20h30 sur les réseaux sociaux avec Mathilde qui suit tout ça et notamment les différents participants pour le jeu de ce soir avec des places à gagner pour l'Élan Béarnais qui affronte demain soir Marc, quelle équipe ?
Je ne sais plus.
Tu ne sais plus, c'est dommage. Le Rasta
quelque chose.
Le Rasta Vesta. Voilà, je voulais te lancer un peu là-dessus, c'est dommage. Mathilde, on a nos gagnants, deux gagnants ce soir.
On a deux gagnants, il s'agit de Raphaël et Valentin.
Voilà, bravo à eux, donc qui repartent avec deux places pour aller voir et encourager les Lambernais. Pour, on peut les applaudir, ouais, applaudis-les Marc, c'était une bonne idée, bravo à eux. Voilà, félicitations à Raphaël
très
et Valentin.
Le quiz du COP.
Le quiz du COP, alors qu'on entend Olivier encore rigoler.
Olivier va pas gagner le quiz ce soir.
C'est ça. Marc, à toi de jouer. Alors, à toi de nous faire jouer plutôt.
Ouais, je vais jouer aussi un petit peu. Donc c'est un quiz un peu version Alain Chabat. Donc ça va parler à Xavier qui est fan de l'émission Burger Quiz.
Moi aussi, je suis très très fan.
Donc le thème de l'émission, enfin de l'émission, de la question, c'est Léo Cavalière, une cavalière ou les deux.
Très bien.
Voilà, vous voyez, tu vois un petit peu le pourquoi
oui.
du comment.
Oui, oui, oui.
Donc mesure plus de 2 mètres.
Léo Cavalière.
Léo Cavalière aussi.
Et certaines cavalières peut-être.
Et moi j'irais les deux, parce que sur un cheval, la cavalière elle dépasse les 2 mètres, et Léo Cavalière mesure 2,01 mètres. Donc,
dans ce cas-là, Mathilde, sur un escabeau, mesure plus de 2 mètres.
Et voilà, c'est ça, ça aurait marché, mais bon, là c'est moi qui fais les questions.
Et les réponses aussi.
Et les réponses surtout. Aime manier la cravache.
Les deux.
Ah, peut-être les deux.
Mais on peut faire les réponses aussi. Les
alors, vous connaissez peut-être un petit peu la vie de Léo Cavalière.
Je ne veux pas dénoncer, mais oui.
Oui, et alors donc,
il aime plutôt la cravache.
Il mène bien la cravache. Donc, oui. Ça te rappelle les souvenirs peut-être du mois de mars. Peut-être avec Léo Cavalière, c'était. Non, j'enchaîne.
Enchaîne.
Se produit près du Zénith.
Les deux.
Les deux.
Ça, c'était difficile.
Ouais. Pourquoi?
Parce qu'il est au Palais des Sports Léo Cavalière et autrement à l'hippodrome de Pau, les Cavalières.
Bravo.
Bravo, bravo, c'est ça. C'est fait étrier à Athènes cette semaine.
Léo Cavalière.
Vous avez compris le jeu de mots, hein.
Et oui, excellent, excellent.
C'est bon, Olivier?
Ah, c'est très bon, très très bon.
Va essayer de briller la semaine prochaine à Pau.
Alors, les deux?
Les deux.
Voilà. Pourquoi donc?
Parce qu'il y a les étoiles de Pau.
Et oui, qui brillent.
Qui brillent.
Et oui. Il est allé jusque-là, il est fort ce Marc.
Léo Cavalière va essayer de faire un bon match cette année.
Ouais, pour l'instant, c'est assez difficile.
Mais c'est pas bon.
Et je crois qu'on a une question de basket en cogné, non?
Mais on va en parler après.
D'accord, on en reviendra après. Alors. Donc voilà, c'était juste un petit jeu de mots parce qu'on pourra annoncer les étoiles de Pau du week-end prochain. Mais Olivier l'avait déjà fait.
Avec Bruno.
Voilà. Merci.
Merci à toi. C'était magnifique, ce petit quiz ce soir, Marc. Voilà, je pense qu'on peut le féliciter. Bravo, Marc. Allez, ça fait une belle transition avec.
On va dire tout le temps.
Ça fait une belle transition avec la chronique de Mathilde, les échos du COP. Donc, on est un peu dans les coulisses, dans tout ce qui se passe autour des différents matchs, événements sportifs des Pyrénées. Mathilde qui fouine un petit peu, hein, si on peut dire comme ça, sur les réseaux sociaux notamment. Bref, fouine-nous.
Ça va être mon surnom, ça.
Ah, fouine.
Alors, on va parler un peu de tous les matchs du week-end, on va dire les plus gros matchs qui se sont passés. Bon, on va rester sur les Lambernais vu qu'on vient d'en parler. Les supporters de les Lambernais qui sont un peu inquiets face au début de saison de leur équipe. Dont Hervé qui dit que la saison va être bien longue, aucun leadership, pas de hiérarchie, un jeu sans collectif basé sur des tirs de loin régulièrement forcés, et Léo qui n'est que l'ombre de lui-même, les chantiers sont nombreux. Et on a notre auditeur Ludo qui nous a envoyé une petite question pendant l'émission justement à ce sujet. Il voulait savoir, Olivier, qu'est-ce que tu pensais de ce début de saison et des balles perdues. Du nombre de balles perdues pendant les matchs de ce début de saison.
Alors, je l'ai un peu dit la semaine dernière. Bon, au niveau des. Je suis assez inquiet du niveau de jeu affiché, non pas par le talent des joueurs, mais par surtout le collectif qui a été mis en place. Et du coup, ce collectif n'étant pas rodé, les joueurs ne savent pas vraiment quoi faire et ils jouent un peu pour eux ou ils ratent leur passe assez facilement parce qu'il n'y a pas de système qui sont mis en place de façon rigoureuse.
Rigoureux, c'est bien, ouais.
De façon rigoureuse cette année. C'est vrai que l'an dernier, c'était surtout basé sur l'axe 1-5, donc meneur pivot, et ça allait assez vite, et les autres joueurs faisaient office d'électron libre à côté. Là, on n'a pas de. Le meneur est moyen plus, Moore. Les pivots sont pas bons, notamment De Jong, qui fait pas un bon début de saison, qui est pas un vrai pivot de toute façon. Donc voilà.
Je suis pas forcément d'accord avec toi sur ça.
Non mais un pivot qui shoot à 3 points, c'est pas un pivot. Le mec il fait un match, il joue 25 minutes.
Ça fait du bien quand même les 3 points qu'il a mis.
On s'en fout, il joue 25 minutes, il prend 0 rebond contre Athènes, c'est pas un pivot. Faut arrêter de me dire c'est pas un pivot, c'est un mec qui est grand et qui bouge sur un terrain de basket.
Alors on a une question de Sylvain sur les réseaux sociaux qui demande s'il manque pas d'un joueur qui amènerait un peu de leadership et
oui,
qui prendrait un peu l'équipe.
Oui, ce qui manque surtout c'est que les 3 joueurs qui sont Matt Mobley, Ronald Moore et Tyrus McGee sont des joueurs qui ont la même vision des choses. En fait, il y a pas de polyvalence dans l'équipe. Il y a pas de polyvalence, c'est-à-dire qu'il y a 3 joueurs, c'est les mêmes. Donc du coup, il suffit de bien défendre sur un et on défend bien sur les 3. Il suffit de bien bloquer un. Il suffit qu'il y en ait un qui joue bien pour qu'il empêche de faire briller les autres. Parce que c'est pas du tout la même façon de jouer. C'est la même façon de jouer. Donc du coup, on les met les uns sur les autres et ça fait un bon joueur au lieu de 3 bons, quoi. Et c'est ça qui est dommage. Alors que ce sont 3 bons joueurs.
Ça fait grand quand même.
C'est 3 bons joueurs. C'est des joueurs qui avaient des bonnes stats dans d'autres équipes, mais avec justement d'autres coéquipiers à côté qui pouvaient apporter une certaine polyvalence. Là, il y en a pas. Bon, voilà.
Tu veux dire que le recrutement est un peu raté, quoi.
Le recrutement est totalement raté.
Ah, c'est dur de dire ça après 6 journées quand même, je trouve. Enfin, 6 matchs joués, 5 journées.
Je suis d'accord, mais c'est juste par rapport à la physionomie qu'on peut avoir de l'équipe en général. Individuellement, les joueurs sont bons. En général, les joueurs ou sont pas assez bons, pas au niveau, comme De Jong par exemple qui est pas au niveau, Léo qui est pas au niveau. Mais les 3 joueurs que t'es créé pour faire du jeu, Mobley, Maggie et Moore, c'est pas bon.
Je reviens là-dessus, ça, on joue depuis 5 journées. Alors tu vas me dire, il y a peut-être la préparation aussi pour tout ça, mais ça peut mettre un petit peu de temps à se roder. Il y a quand même, moi je te trouve très sévère dans le sens où, oui, certes, on a parlé des pertes de balles très nombreuses. C'était encore le cas face au Portel à domicile, malgré une victoire très très à l'arrache, on peut le dire, face à une équipe qui a pas montré grand-chose. Là encore, beaucoup de balles perdues du côté d'Athènes, du côté de l'ASVEL. Il y a ça certes d'un côté, mais il y a quand même des bons moments, des temps forts de cette équipe. Et si elle arrive à...
Défensivement, oui.
Défensivement, c'est intéressant. Non, mais offensivement aussi,
non,
il y en a
aussi. Défensivement, c'est pas intéressant. Dis pas défensivement, c'est intéressant, s'il te plaît. Sinon, on parle pas le même sport. Défensivement, c'est pas intéressant, c'est intéressant.
C'est pas
minutes.
Mal quand même.
5 minutes défensivement.
Ouais, ça prend quand même bien les rebonds.
T'as vu quel match
bien. Ouais, ouais. Bah, j'ai vu tous les matchs, quasiment tous les matchs.
C'est bon 5 minutes, c'est-à-dire que face à l'ASVEL, ils prennent une grosse tôle. 5 minutes, ils défendent bien. Ils ont un jeu qui est beau.
Mais le gros problème, c'est les coups d'éclat, comme il y a pu avoir face à Bourg au premier match, dans les 2 premières minutes où ils prennent 0. C'est à l'ASVEL dans le deuxième quart-temps où ils prennent 23-9, un truc comme ça.
Ah oui, c'est le problème, c'est la défense.
Oui, mais pendant une période réduite.
De 35 minutes, oui.
Ouais, réduite de 35 minutes. Je trouve très sévère. Hein. On aura l'occasion d'en redébattre dans les prochaines semaines, mais après je trouve très sévère. Ou après l'émission, voilà. Non,
Allez, sur une touche un peu plus positive, on va parler du Pau FC qui a gagné ce week-end et qui a reçu de nombreuses félicitations sur Twitter, notamment de la part d'Eric Sobat, l'acteur en sport.
Pardon.
Olivier.
Quand ça gagne, il est là. Hein. Alors, vas-y.
Alors, tous sont un peu unanimes sur l'objectif de la saison, c'était le maintien. Et plusieurs commentateurs, plusieurs supporters sur les réseaux sociaux se posent la question, dont Eric Sobot qui dit est-ce que cette équipe nous donne de plus en plus envie de croire à la Ligue 2. Plusieurs supporters aussi ont évoqué cette idée. Alors, je voulais vous demander, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que cette équipe du Pau FC peut viser la Ligue 2 cette année?
Elle peut, mais il faut pas s'emballer parce que le championnat est hyper serré. S'ils perdent 2 matchs, ils sont 6e. Donc voilà, c'est possible. L'effectif est plutôt sympa puisque l'ossature, enfin l'épine dorsale a été plus ou moins maintenue par rapport à ce qu'il y avait l'an dernier. Mais après, en termes de profondeur de banc, peut-être ça va être un peu juste par rapport à d'autres écuries. Donc c'est possible, il faut les laisser rêver, il faut pas trop en parler, il faut les laisser jouer. Ça joue plutôt pas mal. Le groupe a l'air de bien vivre, donc pour l'instant, nous emballons pas, quoi.
Même avec Marco, il y a un gros paquet d'équipes qui se sont détachées en tête. Il y en a que 2 qui montent directement. La 3e équipe qui fait des barrages un peu compliqués. Quand même, c'est une équipe qui peut monter, sincèrement, parce qu'ils ont gardé l'ossature, parce que du coup les systèmes étaient en place dès le début. C'est un peu une différenciation de l'élan Bernay où il n'y avait pas de système en place dès le début parce qu'ils ont tout changé. Là, ils ont gardé une ossature. C'est la première année qu'ils gardaient autant de joueurs et c'est la première année où ils sont 2e. Donc, il n'y a pas d'omelette sans casser des poules, quoi.
Voilà. Mais par contre, on va vivre une saison très sympa pour les supporters. C'est bien de jouer le haut de tableau parce que ça faisait 3 ans ou 4 ans peut-être qu'ils jouaient plutôt le maintien et qu'ils se maintenaient un peu difficilement, sauf l'année dernière. Donc c'est vrai que Bruno Irles a dû faire du bon boulot quand même. Ouais, j'ai un peu ripé. Puisque du coup, c'est sur la continuité de ce qu'il avait fait sur la deuxième partie de saison l'an dernier. Donc voilà, bon, on va le laisser et tranquille.
Ça fait plusieurs, voilà. Ça fait 2-3 matchs, je crois, qu'il gagne la dernière minute.
Ouais, voilà. Alors par contre, voilà.
Ça prouve quand même que l'équipe a du caractère. Ça prouve aussi que ça peut
être la chance du champion.
Ça ne tournera pas forcément bien tout le temps. Comme ça.
Mais ça tourne bien cette année, alors que l'année précédente, ils avaient tendance à perdre dans les derniers instants. Donc. Mais on va y aller tranquillement, on va aller les voir, on va prendre du plaisir, on va peut-être pas s'emballer sur la montée.
Faut pas s'emballer, mais faut quand même avoir des aspects positifs. Ils sont deuxièmes, on va pas dire, bah non, ils vont pas monter, deuxièmes quoi.
Restons optimistes.
Restons optimistes avec la section qui a gagné ce week-end. Et alors, ça, les débats ont été, alors que ce soit sur Facebook, sur Twitter, ils s'en sont donnés à cœur joint. Pierre a lancé un débat sur Twitter, le fait que Monsieur Chalon, donc l'arbitre de la rencontre, ait fait appel 8 fois. À la vidéo. Alors ça lance un débat sur la vidéo.
Pour ou contre.
Alors.
Ouais, on va pas refaire le débat sur la vidéo ici, mais c'est vrai que des fois c'est. Ben, on l'a vu même pour ceux qui ont regardé les quarts de finale ce week-end avec. C'était le match Australie Angleterre samedi matin où le match était plié et ils utilisent encore la vidéo à 2 minutes de la fin.
Oui, pour un essai.
Enfin, ça changera absolument rien. Bon, c'est. Il faut garder quand même un petit
aussi,
peu
d'appréciation.
Voilà, c'est ça.
La problématique, c'est que les arbitres sont plus ou moins notés sur ce qu'ils interprètent. Et donc, à ce moment, tant qu'il y a ça, de toute manière, ben, ils iront faire valider leur décision par la vidéo. Donc, c'est ça le problème. Il faudrait que la vidéo, ce soit les équipes qui l'appellent une fois de temps en temps.
Merci Marco, je suis d'accord avec toi.
Deux fois dans la soirée, c'est énorme. On va rester sur ça.
Et puis il y a eu un autre débat qu'on avait un petit peu lancé l'année dernière par rapport au public pas loin. C'est Laurence sur Facebook qui dit merci pour ces quelques mots tant attendus, puisque voilà, il y a eu des félicitations. Il est regrettable par contre que le public pas loin ne soit fier de ses couleurs que lors des exploits sportifs des joueurs. Prenons exemple sur notre voisin Bayonnais, encourageons-les à chaque instant. Alors c'est vrai qu'on en avait un peu parlé l'année dernière parce que j'étais un peu agacée de voir les joueurs se faire siffler par les supporters à chaque match. Enfin voilà, c'est un peu les supporters quand ils gagnent tout va bien, quand ils perdent tout va mal.
Ce ne sont pas les supporters pour moi.
Alors voilà, du coup ça a créé un débat sur Facebook par rapport à ça, mais c'est vrai que le public palois est réputé quand même pour avoir...
C'est juste des spectateurs, ils sont là, quand ils perdent, bon, à la limite ils sifflent, mais ils n'encouragent pas l'équipe, donc ils sont juste là en spectateur pour moi la plupart du temps.
Alors ça dépend, tu parles du rugby parce
que Du rugby,
oui, il y en a qui encouragent et qui à la fin ils sont déçus du résultat, ils sifflent pour dire, ben, voilà, on n'est pas content. Ceux-là on peut quand même...
Ouais, mais il y en a pas beaucoup.
Je suis pas sûr.
L'an dernier c'était pendant la première mi-temps carrément des matchs où ils se faisaient siffler, c'est quand même aberrant d'entendre.
Non mais c'est surtout après, ben, on gagne un match, on est les meilleurs, on perd un match, on est les plus nuls, il faut virer tout le monde et tout ça. C'est des mecs qui connaissent pas grand chose au sport de toute façon. Autant au bout de même 6-7 journées, tu disais Xavier par rapport au basket, ou 6-7 journées pour des gens qui sont un peu connaisseurs, on peut voir quand même une tendance se dessiner. Pour des gens qui, dès la première journée, il faut virer les 3/4 des joueurs, ou tous les 3/4,
et l'entraîneur avec.
L'entraîneur avec qui est nul, on fait voilà, faut appeler machin, c'était mieux il y a 20 ans, machin. C'est bon. C'est des commentaires, faut même pas prêter attention, quoi, c'est pas intéressant.
Juste pour revenir au match, c'est un bon résultat et c'est vrai que du coup par rapport à l'incident entre guillemets du match contre le Racing, ça rassure quand même un petit peu quoi.
Oui, c'est une équipe qui a du potentiel. Après voilà. J'ai vu dans l'équipe type de cette journée-là de Top 14, il y a eu Fumat, Lespio et Taji Valu. Et j'adore. Et du coup, c'est des joueurs qui ont été formés à la section. Donc c'est prouve que la formation qui a eu lieu durant des années, elles commencent à porter leurs fruits. J'en ai parlé aussi la semaine dernière, les joueurs contre Clermont qui ont fait l'exploit contre Clermont, il y avait les 3/4, c'était des jeunes formés ou des jeunes ou des Français ou des jeunes formés. Donc c'est très bien, c'est assez positif de ce niveau-là. Et s'ils se maintiennent cette année, je pense que ça devrait le faire. Ça va être dur, mais ça devrait le faire. L'année prochaine, ils auront une équipe qui sera meilleure sur le papier et parce que les jeunes auront encore évolué un an et la formation aura payé.
Je suis d'accord aussi.
Et puis on finit sur le Tour de France. On a appris mardi dernier que le Tour de France passerait dans les Pyrénées sur 2 étapes. Une étape en Bigorre et une étape en Béarn. Donc on aura un Pau-la-Reims et un Cazères-Loudainviel. Et on a eu un petit débat sur la page du Cop Inside sur le parcours du Tour de France. On a Stéphane qui dit qu'il est un peu écœuré de voir la course se dégrader. Alors pourquoi il a dit ça, Stéphane, par rapport au fait que aujourd'hui, le Tour de France, enfin, du moins en plus celui de 2020, va passer presque exclusivement dans le sud de la France. Et donc ça fait débat sur voilà, c'est pas vraiment le Tour de France, c'est aussi le débat sur le Tour de France qui démarre certaines années. Alors ça sera pas le cas en 2020, mais à l'étranger, puisqu'il a déjà démarré plusieurs fois. Enfin, c'est un peu coutume ces dernières années.
Oui, des fois, tu as même 2-3 étapes à l'étranger, hein, ouais, sur un même Tour de France. Ça me choque plus.
Moi aussi, ouais. Pour le coup. Mmh. Mais voilà, donc, moi, non, c'est le petit
c'est,
débat.
C'est le Tour de France, pas de la France. Hein.
Et voilà.
C'est ça.
Voilà. Et après, il y a un aspect financier qu'on ne maîtrise pas forcément.
C'est justement ça que j'avais parlé, c'est l'aspect financier. Si les gens, si nous, on a les Palois n'ont pas râlé parce qu'il y avait la Vuelta ici, ils font « Ah mais c'est pas le Tour d'Espagne, ça passe par Pau et tout ça. » C'est facile, il faut râler. Quand ça les touche, c'est bien, mais quand ça leur apporte quelque chose, un spectacle supplémentaire, ils sont contents. Donc c'est un peu le même concept que tout à l'heure. Quand il faut dire « Ah ouais, mais ils partent du Qatar, peut-être pas, ils partaient du Danemark ou je ne sais pas quoi, faut pas y aller. » c'est pas le tour, mais par contre quand la Volta passe à Pau, ils sont contents, donc bon, voilà, j'ai envie de dire ça. Et après le Tour de la France, oui, mais s'il y avait des montagnes en Bretagne, ça serait bien quoi. Si évidemment ils sont obligés, par logique, ils sont obligés de faire 3 étapes dans les Pyrénées, 3 étapes dans les Alpes, un peu dans les Vosges, un peu dans le Massif central de temps en temps, ça c'est l'étape sur Paris, ça fait moins d'étapes après. Bah oui, forcément, à un moment donné ils passent par le centre, ils passent par l'Hérault là cette année, où ils passaient pas l'an dernier. Après, ben oui, ils vont passer en Bretagne l'année prochaine, ça va être super, ils vont faire la route.
Ceci dit, ça va être un très beau tour quand même 2020, parce qu'on va y avoir beaucoup d'étapes de montagne et 2 étapes dans les Pyrénées, donc nous, ben, on est très contents, hein, puisqu'on va pouvoir suivre de belles étapes dans les Pyrénées.
Oui, voilà, c'est ça, c'est cool. Et puis, c'est pas parce que ça passe par en Bretagne que ça fait un beau truc, voilà.
Très bien, merci Mathilde pour avoir fouiné donc sur les réseaux sociaux. On te retrouve bien sûr tous les lundis dans le COP Inside pour les différentes réactions sur des sujets qui concernent le sport local dans les Pyrénées.
Le chiffre du COP.
Le chiffre du COP, je vais essayer de vous faire deviner un chiffre. Alors non, c'est pas vraiment ça. Je vais vous donner le chiffre. C'est plutôt ça. Je vais vous donner le chiffre et vous allez essayer de savoir à quoi ça correspond, parce que sinon ça marche pas tout à fait pareil. Le chiffre, c'est 1. Pour quelque chose qui se rapporte à l'actualité sportive du week-end. Oui, tout à fait. C'est une première.
Première victoire.
C'est une première victoire. Ouais,
à domicile.
Ça, non, alors, attends, il allume les notes ou quoi? C'est pas possible.
Un club de hand.
Ouais. Ouais, ouais.
Le BHB.
Comment tu as trouvé ça du premier coup?
Parce que
tu l'avais vu?
Non.
Pourtant, j'ai vu le match. J'ai très bien caché.
C'est vrai que non, mais en plus, on n'en a pas parlé. Donc
on n'en a pas parlé.
Tout à fait. Voilà, je voulais rendre hommage quand même au Bière Handball qui a remporté son premier match à domicile pour son retour cette année en Pro League. Le Bière Handball qui galère un petit peu quand même en ce début de saison. C'est le lot des promus en général. Ils sont sur le bas du classement, mais ils ont réussi à l'emporter et tout de même face à une belle équipe, cette équipe de Cesson-Rennes que le Bière Handball a battu 26 à 24 en gérant bien notamment la fin du match. Ça a été serré du début jusqu'à la fin entre les deux équipes. Première victoire à domicile parce que c'était déjà le quatrième match en 6 journées. Ils ont déjà joué une fois de plus à domicile qu'à l'extérieur. Les Biérois, ils devront rattraper tout ça un petit peu plus tard, bien sûr. Mais ils n'avaient pour le moment que, pour au mieux en tout cas, concédé un nul et perdu deux fois déjà dans leur Sporting d'Est, les Biérois. Donc ça fait vraiment du bien. Et cette équipe de Cesson-Rennes qui descend de Star League, donc c'est quand même une belle performance pour les Biérois. Il va leur faire du bien pour peut-être enfin lancer leur saison, même s'il y a déjà eu cette victoire à Saran qui était très intéressante à la quatrième journée.
Inversement, voilà une équipe qui progresse. On peut voir quand même les contours qui se dessinent d'une équipe qui va progresser encore au fur et à mesure des journées et qui pourrait être, qui va, objectif maintien évidemment, qui pourrait assez facilement se maintenir. On voit qu'il y a quand même.
Ça va être compliqué. En plus, il y a eu beaucoup de changements.
On parlait de l'élan Béarnais tout à l'heure en termes d'instabilité dans l'effectif. Bière, c'est un très bon exemple. Je crois qu'ils ont gardé que 2-3 joueurs l'année dernière, dont le capitaine Jérémy Vergély.
Mais là, on voit quand même qu'il y a un effectif qui a été construit, je vais dire, intelligemment. Donc du coup, ils vont pouvoir progresser. C'est la différence. On peut, il y a que 6 journées, on peut juger quand même, voir qu'il y a du potentiel d'un côté, pas de l'autre.
Tout à fait. Voilà, c'était pour mettre en évidence et en lumière cette belle performance du Bière Handball. Prochain match pour le Bière Handball en championnat, ce sera un déplacement à Célesta qui est 13e, donc concurrent direct pour le moment au maintien dans cette Pro League de handball.
Le pari gagnant de la semaine, c'est dans Cop et Match.
Allez, dernière rubrique de cette émission avec Marc Logini. On parie sur un match à venir.
On va rappeler le résultat de la semaine dernière. Ouais. Donc c'était sur le derby entre Bagnères de Bigorre et Lannemezan. Et donc Lannemezan s'est imposé à Bagnères de Bigorre. Donc Olivier, on est forcé de reconnaître que c'est toi qui as marqué un seul point, puisque tu as vu la victoire de Lannemezan. L'écart n'était pas tout à fait bon. Et après nous, c'est un peu trompé, quoi. Donc pour le match de la semaine, en fait, ça va être, j'allais parler de Hand, donc effectivement, donc on va parier sur le déplacement de Bière à Célesta. Donc Xavier en a pas mal parlé, vous avez donné quelques billes, donc Mathilde, qu'est-ce que tu en penses? Victoire, alors victoire.
Je ne veux pas m'exprimer toujours la première, sinon je vais.
Ouais, mais comme t'as perdu la semaine dernière, on va laisser Olivier quand même en dernier. Donc, tu auras la première place aujourd'hui pour t'exprimer. Donc, soit match nul, victoire de 5 points, enfin de plus de 5 buts ou de moins de 5 buts.
Ou voilà. Défaite aussi.
Ou défaite, oui. Ouais. Enfin bon, victoire pour Célesta.
Bon, allez, je vais dire une défaite de bière.
Plus ou moins de 5 buts.
Moins de 5 buts.
Et moi, je vais jouer la grosse cote, le match nul de bière.
Alors, Olivier, moi je vais être fidèle à ce que je pense. Bière, c'est une équipe à un énorme potentiel. C'est très fort. Ça a progressé, ça a battu Cesson. Défaite de plus de 5 buts de bière.
Très très cohérent.
C'est ça, c'est cohérent. Et moi, toujours, mais moi j'aime bien le match nul. Donc, match nul.
Ah ouais, deux matchs nuls quand même. Ouais.
C'est pas mal.
À voir.
Il y a plus de chances là que.
On leur souhaite bien sûr de gagner et de tous perdre.
Bien sûr, c'est pas ça.
Évidemment, évidemment, ça reste que des pronostics et on ne demande qu'à se tromper. Allez, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous. Merci également à nos invités. Virginie Kolanowski, peut-être un dernier mot pour clôturer cette émission. T'as passé un bon moment?
J'ai passé un très bon moment. Le dernier mot, on va dire félicitations à nos Béarnais qui sont allés faire la Diagonale des Fous et surtout à Maxime Cazajou qui a fait quelque chose d'incroyable, je dirais même de surhumain. D'aller au bout et de faire ce qu'il a fait, c'est énorme, quoi. Donc voilà, bravo à lui.
Félicitations à lui, félicitations aux autres sportifs locaux qui ont participé à cette belle course, hein, très très difficile. Nous, on se retrouve bien sûr lundi prochain entre 19h et 20h30 pour le Cop Inside. Pour l'heure, c'est le retour des hits sur Radio Inside avec Ava Max et Bakermat. À très vite.